C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Au programme, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Le Monde de Roterra. Le premier jeu d'Hasbro, à vrai dire, dans la gamme, on peut appeler ça des joueurs. Et puis, on va retrouver en fin d'émission Marie pour nous parler de Destination Jeu. Je ne sais pas où était Marie, je crois que Marie était en vacances, elle a eu quelques petits soucis même. Donc, elle nous expliquera tout ça. Et puis, tout de suite, on va retrouver Rachel. C'est passé sous les radars de C'est ludique. Salut Rachel.
Coucou Matt, coucou les auditeurs. J'allais faire une transition avec les malheurs qui arrivent à Marie. Oui. Marie, ça se trouve, elle est tombée à cheval. Non, je crois qu'elle est tombée de ses skis.
Oui, de ses skis. Ah oui, parce qu'on va parler de Ticket Gagnant.
Tout à fait. Alors, Ticket Gagnant, c'est un jeu sur les courses hippiques, c'est un jeu de PMU. Ouais. Alors, vous pensez peut-être à Ready Set Bet, que je suis sûre que tu as,
ah bah oui,
que tu as couvert.
Celui-là, je le connais.
Et ben, c'est un plus petit jeu. C'est un
d'accord.
petit jeu d'ambiance dans une petite boîte carton format Codenames qui vaut 25 euros.
D'accord.
Et c'est d'abord un jeu de Jean-Christophe Bouvier, l'auteur de Rallyman GT, la référence dans les jeux de course de voiture, parce que Jean-Christophe Bouvier est un passionné de course automobile.
D'accord. Mais il aime aussi les chevaux.
Il a des enfants. Et il a une de ses filles qui est jockey.
Ouais.
Et donc avec elle, il a fait un petit jeu de course hippique en participant avec elle à ses courses. Il a eu l'idée de ce petit jeu où en fait, tu vas avoir un mini plateau sur lequel on a positionné des chevaux qui sont numérotés couleurs. Et on va distribuer aux joueurs des cartes en main. Et en fonction des cartes qui représentent des actions qu'ils vont pouvoir effectuer sur les chevaux, on va tous parier sur un podium.
Alors
on parie un cheval comme deux ou trois chevaux si on est sûr de nous. Alors, vaut mieux éviter de se tromper dans nos pronostics de trop, sinon on peut même perdre des points. Et une fois que tous les joueurs ont fait leurs pronostics, on va les révéler. Très bien, Matt, il a prévu que le cheval jaune soit sur la première place. Je ne vais pas lui laisser marquer des points du cheval jaune sur la première place. Je vais m'arranger pour que le cheval jaune ne gagne pas cette course.
Ah bah oui.
Et bien comment ? C'est assez bête, en fait. C'est des cartes qui vont dire « Je peux influencer, faire avancer le cheval orange de deux cases. » Mais en fait, ma carte, je vais pouvoir l'orienter.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire avancer le cheval de deux cases, le faire changer de deux couloirs vers la droite, aussi bien que je vais pouvoir le faire reculer. Il y a d'autres cartes qui sont un cheval par rapport à un autre. Tu vas avoir le cheval vert à côté du cheval bleu. Et donc, ça veut dire que tu vas pouvoir ramener le cheval vert jusqu'au cheval bleu s'il était tout en bout de fil. Ou au contraire, je ramène le cheval vert à côté du cheval bleu, prendre ton cheval bleu et le mettre derrière le cheval vert. Et donc, tu as une main de... en début de partie, on a choisi si on joue avec 5, 6, 7, 8 cartes. Et tu vas devoir optimiser au mieux ta main de cartes. Quand j'en parle aux joueurs, je leur dis, c'est un feeling de Colt Express.
D'accord.
Quand tu reçois tes cartes en main, tu imagines un plan dans ta tête.
Ok.
Ça dit que ça se passe aussi bien que ce que t'avais prévu. Et ça rend le jeu vraiment très très drôle, parce que si t'arrives à faire le tiercé gagnant, forcément tu t'en mets plein les poches en termes de points de victoire, puisque non, ceci n'est pas un jeu d'argent. Mais c'est vraiment un jeu d'ambiance. Pendant la course, tu vois, dans Ready Set Bet, c'est ou l'application ou un joueur qui met le feu, mais c'est un peu aléatoire. Là, tu as un semblant de contrôle. Alors, je dis bien un semblant parce que tu peux pas savoir ce que les autres joueurs ont en main. La carte de fin peut mettre tout le bazar dans tout ce qui s'était bien passé jusque-là, mais c'est vraiment très très drôle.
Est-ce que tu es aussi à fond que dans Ready Set Bet, justement ?
Ben, justement, oui. Alors c'est pas aussi frénétique, tu vois, tu cries pas dans tous les sens, mais de manière un petit peu plus posée, c'est exactement ça qui se passe. Ah non, mais vas-y, tu vois, on va pas lui laisser encore marquer des points de victoire. Vas-y, fais reculer l'orange. Vas-y, ne joue pas cette carte-là. C'est vraiment très très drôle, quoi.
Ouais, donc tu peux aussi être complice avec d'autres joueurs.
Exactement. Mm-hmm. C'est exactement ça.
Ok. Donc ça s'appelle Ticket Gagnant. C'est sorti quand alors ?
C'est sorti à l'Alchimie de l'année dernière, donc il y a bientôt un an déjà.
Ah, il y a bientôt un an déjà. Et donc, c'est passé sous les radars de C'est ludique, mais comme tu es là, Rachel, tu as pu nous en parler ce matin. Merci beaucoup, Rachel.
Eh bien, merci à toi et bonne chronique du monde de Roterra qui est effectivement une bonne surprise.
Eh oui, une bonne surprise. D'ailleurs, qu'est-ce que ça te fait penser, toi, Hasbro, qui arrive dans le domaine du jeu de société pour joueurs ?
Eh ben, alors, je me demande justement comment ils en sont venus à travailler avec Eric Lang.
Ouais.
Eh ben, ça peut faire que du bien. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein, donc je me dis, si Hasbro arrive avec des bons jeux, ça peut ramener encore tout un public, parce que Hasbro est déjà installé dans certaines grandes surfaces.
Ouais.
Peut-être qu'ils ont les codes que certains éditeurs qui font des très bons jeux n'ont pas encore. Donc moi, je reste persuadé qu'on peut toujours tirer tout le monde, trouver un nouveau public, et ça, j'en rêve.
Et apparemment, ce n'est que le premier d'une longue série. Par contre, il va falloir qu'ils s'habituent quand même aux codes des joueurs. Hein. Il faut mettre le nom de l'illustrateur sur la boîte, les amis.
mais on le leur a dit cette fois-ci.
Ouais, voilà, c'est ça. On va en parler d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Rachel, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
On les connaît pour le Monopoly. Est-ce un nouveau départ pour Hasbro ? Possible, une chose est sûre, ils se lancent dans le jeu de société moderne. Et pour ce premier pas, ils ont choisi des spécialistes du genre, en la personne de Eric Lang et Ken Gruhl. Voici le monde de Reterra, où le monde d'avant c'est fini, la nature a recouvert les infrastructures laissées par les humains, et une nouvelle civilisation va découvrir tout ça. Son but, reconstruire et redonner vie à un monde en harmonie avec la nature. Alors imaginons ensemble un monde plus vert. Le monde de Reterra est un jeu de place de tuiles distribuées par Pizzi Games. Alors au niveau de la mise en place, vous posez un plateau où seront disposés des polyominos qui représentent des bâtiments que vous pourrez construire sur vos terrains. En dessous, il y a des cartes bâtiments qui ont des pouvoirs. Autour, les tuiles paysages, des meeples habitants et des jetons d'un côté bric-à-brac et de l'autre reliques. Chaque joueur va débuter avec une tuile et le but sera d'agrandir petit à petit votre territoire pour au final avoir un territoire composé de 16 tuiles. Chaque tuile est divisée en 4 avec des terrains tels que de l'eau, de la forêt, du désert ou encore des prés. Mais sur ces tuiles, il peut y avoir aussi des reliques qui vous feront marquer des points ou des engrenages pour construire des bâtiments. Mais alors comment on joue ? La première chose à faire est de choisir une tuile et de la placer dans votre territoire. Pour ça, la tuile doit être adjacente à une autre tuile déjà posée. Ensuite, vous allez regarder s'il est possible de poser l'un des bâtiments ou des habitants. Si sur la tuile que vous venez de poser, il y a un symbole engrenage, vous pouvez poser dessus un habitant. Mais il est possible aussi de choisir un bâtiment si cette tuile avec un engrenage permet de relier d'autres tuiles posées avec des engrenages également. À vous de bien placer vos tuiles, vous l'avez compris. Car il faut savoir qu'en prenant un bâtiment, en plus des points de victoire en fin de partie, vous allez avoir un pouvoir. Et ce pouvoir peut être puissant et va s'appliquer dès le prochain tour et embêter vos voisins de jeu. Car si je récupère par exemple la ferme, dès que je poserai un habitant dans ma communauté, je placerai un jeton bric-à-brac chez l'un de mes voisins. En gros, vous allez recouvrir l'une de ses reliques, ça lui fera des points en moins en fin de partie. Croyez-moi, ça va pas lui faire plaisir. Alors après avoir joué, il ne reste plus qu'à dévoiler une prochaine tuile pour le joueur suivant et ainsi de suite. La partie s'arrête dès que les joueurs ont rempli toute leur communauté, à savoir 16 tuiles, 4x4, le gagnant est celui dont la communauté est la plus prospère. Alors justement, qu'est-ce qui compte ? Eh bien la première chose, ce sont les scellements de terrain. Si vous en avez 7 ou plus adjacents, par exemple avec 8 forêts, vous aurez 3 points. Si vous arrivez à entourer une source d'énergie, les tuiles d'eau, vous obtenez 8 points. Un point également par relique visible, les smartphones sont appelés dans ce nouveau monde des fenêtres magiques. Un point par habitant, les points indiqués sur les bâtiments que vous possédez. Et enfin, un point de moins par jeton bric-à-brac présent sur votre territoire. Le monde de Reterra promet une belle rejouabilité grâce à ses nombreuses combinaisons de tuiles. Et chaque bâtiment va changer votre stratégie. Il y a 3 catégories de bâtiments à recto verso, 30 au total. Lors de votre première partie, on vous conseille de jouer avec les infrastructures côté violet, mais après vous pourrez passer à leur côté orange, puis à la catégorie commerce, et puis il y a aussi la catégorie loisirs. Mais c'est pas tout, les auteurs vous proposent après de mélanger les catégories pour des parties avec encore plus d'interactions. La catégorie voisin hostile va les agacer, alors que la catégorie sérénité, eh bien les parties seront plus calmes avec moins d'interactions. Il y a vraiment différentes façons de jouer dans le monde de Reterra. Ce jeu est certainement le début d'une nouvelle gamme chez Hasbro. Une chose est sûre, c'est le retour d'Eric Lang avec un jeu qui plaira autant aux familles qu'aux joueurs initiés et qui a toute sa place aux côtés des Cascadia et Acropolis. La différence, c'est qu'ici, on ne joue pas chacun dans son coin, contrairement aux deux cités avant. Là, vous allez interagir sur le plateau des autres joueurs. Dernière chose, l'édition est très belle. À noter aussi les illustrations mi-BD, mi-manga de Hugo Coelho. Je vous le dis, car il n'est pas mentionné sur la boîte, mais ça devrait être modifié lors du prochain tirage. Et oui, Hasbro, c'est très important de mentionner le nom des auteurs et aussi des illustrateurs du jeu. Une chose est sûre, il nous arrive avec une très belle pépite ludique qui a été le coup de cœur des boutiques au Festival de Cannes.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Destination jeu, c'est tous les mardis avec Marie. Salut Marie.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors Marie qui était au ski la semaine dernière, on t'avait eu, mais t'as eu quelques petits problèmes.
Tout à fait. Oui, eh bien, le ski, c'est un peu plus dangereux que les jeux de société, voyez-vous.
D'accord. Donc du coup, t'as plus
un peu
fait...
mieux que... Enfin voilà, j'ai fait une grosse chute sur les pistes qui m'aura valu l'ouverture de la lèvre et quelques hématomes.
Ah, quand même.
Mais qui m'aura valu aussi le fait de... je pouvais plus remonter sur les skis et du coup, j'ai joué toute la journée.
Donc du coup, ça t'a pas changé finalement. Donc tu as joué toute la journée. Alors t'as découvert des nouveaux jeux ou tu les connaissais déjà?
Alors, j'ai en effet découvert pas mal de nouveaux jeux. Alors, certaines nouveautés qui sont des nouveautés de cette année, ouais. Mais aussi de très vieux jeux. Parce que je suis partie en vacances, du coup, j'étais avec Yuan et Céline Levé.
Ouais.
Et comme vous savez peut-être, Yuan Levé, c'est un auteur de jeux qui fait beaucoup de jeux de déduction.
Mmh.
Et en fait, il nous a fait découvrir des jeux de déduction, mais par exemple de 1974, enfin vraiment de très vieux jeux de déduction, je pense que voilà, les tout premiers jeux.
D'accord.
Et notamment, il y en a un auquel on a joué tous les jours. Celui-là, c'était un jeu à peu près de 2000, je crois, qui s'appelait Télépathie.
D'accord. C'est des jeux qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le commerce, je suppose.
Non, malheureusement, celui-là, on ne le retrouvera plus dans le commerce.
Ah ouais.
Mais je crois qu'il est disponible ici aux États-Unis.
D'accord.
Moi, je crois que je vais craquer et que je vais l'acheter aux États-Unis. En fait, c'est un jeu qui n'a pas été édité en France.
Ah oui, d'accord.
Bien. Et donc, du coup, si jamais des éditeurs écoutent cette émission,
je ne
sais pas comment ça se passe pour des vieux jeux. Mais vraiment, c'était vraiment super. On a fait une partie tous les jours. Et voilà, c'était juste un énorme tableau, un peu comme un tableau de Sudoku où on a des formes, des couleurs et des coordonnées. Et on a l'impression à la fois de jouer à la bataille navale parce qu'on dit est-ce que en A1 bleu éclair il y a quelque chose de bon ?
D'accord.
Et les gens répondent juste oui et non. Et avec toutes ces déductions, on doit retrouver notre position sur la grille en fait.
Mmh.
Et c'était assez malin. Et donc ça, c'était vraiment un très bon petit jeu de déduction. Après, j'ai énormément joué, tous les jours, plusieurs fois par jour,
d'accord.
À Odin.
Excellent, Odin.
Ouais, petit jeu de cartes. Et au départ, quand on m'avait présenté, j'étais là, ok, encore un jeu de cartes avec des numéros. Et en fait, il est ultra addictif.
Ouais.
Au point où même dans le train du retour, j'étais sur un carré. Vous voyez, dans les trains, on est sur des carrés avec des gens que je ne connaissais pas.
Ouais.
Et du coup, je leur ai dit « Ah, vous voulez faire un petit Odin ?» Et je me suis retrouvée à faire un Odin avec des gens qui ne jouaient pas du tout aux jeux de société.
D'accord.
Et c'était assez cool parce que j'ai pu remarquer que même si on ne connaissait pas les jeux, eh bien, Odin, ça marchait. Et c'est ça aussi qu'on aime bien dans le jeu, c'est créer tout ça. Bon, le carré d'à côté n'avait pas l'air trop d'accord avec nous. Il nous a quand même demandé, et je cite, on nous a dit « Bon, les jeux de société, ça va un moment, mais il faudrait arrêter.
» Ah oui, d'accord.
Bon, voilà. C'est pas de ma faute, mais du coup, les gens étaient morts de rire, les gens passaient un bon moment. Voilà, peut-être que ça faisait un petit peu de bruit. Et franchement, on n'était pas très bruyant, quand même.
Non, des petits jeux de cartes comme ça, on n'est pas bruyant sur les jeux. T'imagines, t'aurais fait Ready, set, bet dans le train.
C'est vrai, après ça aurait fait plus galère, mais c'est vrai que c'était compliqué. Après, dans le train, ils m'ont quand même dit ça, mais j'ai quand même fait un autre jeu. J'ai présenté aussi Storybox.
Ouais.
Donc, Storybox, c'est la réédition de Dream One, c'est Tiki Édition. Et en fait, vous allez tous ensemble créer une histoire pendant 2 minutes. On lance un chrono et vous avez 2 minutes pour vous raconter une histoire grâce à des cartes illustrées. Et moi, ce que j'adore, c'est donc ce que ça génère autour de la table parce que vraiment, on crée une histoire ensemble et ça fait de super souvenirs.
Ouais.
Et après, une fois qu'on a créé l'histoire, on retourne les cartes, il faut se souvenir de l'ordre des cartes qu'on a jouées et on marque plus ou moins de points et c'est coopératif. Et ça, vraiment, moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et ce qui est bien par rapport à Dream On, pour ceux qui connaissaient Dream On, c'est que c'est une grosse boîte avec beaucoup de matériel.
Ouais.
Et là, avec Storybox, c'est en fait des toutes petites boîtes qu'on transporte partout. Et donc voilà, ça c'est mes deux gros coups de cœur de jeu que j'ai testé dernièrement.
D'accord.
Mais j'ai pu tester, donc du coup, à Valmenier, comme c'est un endroit où il y a notamment des gros joueurs, ils avaient en Kutna Ora.
D'accord, Kutna Ora,
ok. Je ne sais pas si tu vois le dernier
ouais,
expert de chez Yellow.
Ouais, j'ai pas joué, mais je vois la boîte, elle est toute noire.
Ouais, et ben voilà, moi, la boîte ne me donnait pas du tout envie d'y aller. Je pense que, de premier abord, j'y serais jamais allée, là, le fait que ça sorte cette année et qu'entre guillemets, je doive les tester pour l'As d'Or,
bah oui.
Je me suis dit, bon bah, je vais le tester. Mais physiquement, il ne me donne pas du tout envie. Déjà, quand vous ouvrez la boîte à l'intérieur, c'est déjà nettement plus plaisant qu'à l'extérieur.
D'accord.
Ça, il n'y a pas photo. Et ben, en fait, conclusion, merci l'As d'Or, parce que j'ai adoré le jeu.
Ah bah voilà, tu vois, comme
quoi.
Quoi
des fois, on se bloque sur des trucs et en fait, le jeu était très cool. Il y a une mécanique, en fait, d'achat et de revente qui est assez maligne sur, je sais pas comment l'expliquer, sur des portants de cartes, en fait, où vous avez un coût pour le bois. Et en fait, plus de gens achètent le bois, bah, plus le coût
ah oui.
du bois baisse.
Ouais.
Mais plus t'es tout seul à en acheter, plus il est fort. Et donc, du coup, il y a un système de vente, d'achat qui est très, très, très malin dans le jeu. Et ça, j'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a plusieurs manières de marquer des points de victoire. On va construire des bâtiments, on va aller dans une mine. Et c'est tout combiné, ça marche ultra bien.
Très bien. Eh ben,
donc, très envie d'y rejouer, en fait. C'est-à-dire que c'est une première partie, je me suis fait rouler dessus, mais très envie d'y rejouer.
Très bien. Et là, je crois que tu t'en vas quelque part du côté dans le sud de la France, il me semble. Hein.
Tout à fait. Alors, je suis toujours pas bonne en géographie, donc on va dire quand tu fais confiance.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais en fait, je pars la vendredi et je pars au Festival des Jeux de Valence.
Ouais.
Donc, c'est un festival des Jeux qui a lieu une fois tous les deux ans.
Mmh.
Et c'est un festival qui se trouve à côté de la Cassière, là où on a beaucoup d'auteurs de jeux de société. Et du coup, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'auteurs. Donc, si vous êtes dans le coin et tout, n'hésitez pas. Parce qu'on va avoir du Antoine Bozac, Corentin Lebras, Ludo Maublanc, Johan Levé. C'est un festival qui arrive à récupérer plein d'auteurs. Mais aussi, il y a entre 10 000 et 15 000 visiteurs.
D'accord.
Il y a plein de nouveautés, il y a plein de petites choses qui sont mises en place. C'est un festival qui n'est pas très connu, mais qui commence à être de plus en plus grand. Et donc, si vous êtes dans le coin, alors je ne vous dis pas dans quel coin, parce que je ne suis pas bonne en géographie, mais si vous êtes dans le coin de Valence, n'hésitez pas, allez-y. Moi, pour le coup, j'y vais dès vendredi, et donc ça commence, je crois, samedi matin à 10h, et ça se finit dimanche soir.
Donc, du coup, tu vas essayer de découvrir des nouveautés, je suppose.
Ouais, ça va être le but principal là, des festivals cette année, c'est de... Là, j'y vais vraiment uniquement pour jouer. Et jouer, et jouer à des nouveautés de cette année pour, entre guillemets, me faciliter le... pour l'As d'Or, en fait.
Bah,
parce
oui.
que des festivals, on voit les jeux, on a les gens qui sont là pour nous expliquer les règles. Alors après, quand je reçois les jeux à la maison, ça me permet de relire les règles et d'y rejouer.
Ouais.
Mais au moins, j'ai vu le gros du jeu.
Ouais.
Donc,
très
ça,
bien.
C'est
eh ben super, merci beaucoup Marie. On se donne rendez-vous mardi prochain.
Tout à fait, je pourrai vous parler des petites pépites que j'aurais découvertes au Festival des Jeux de Valence.
Exactement, salut Marie.
Salut.